Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour, nous sommes à mi-chemin de janvier et c'est la première news de 2025. Dans quelques heures, Trump aura pris la tête des États-Unis. Le monde va poursuivre sa métamorphose. 2025 est la première marche du deuxième quart du 21e siècle. Les historiens vont nous dire si l'on entre dans une nouvelle phase historique. Moi, j'en ai un peu le sentiment. Dans l'immédiat, outre le bouleversement géopolitique qui s'annonce, nous avons atteint le sommet du réchauffement. Les accords de Paris 2050 s'accordaient sur 1,5 degré. Or, nous sommes pour 2050. Or, nous sommes en 2024 et nous avons déjà atteint 1,7 degré. Tous les signaux sont au rouge. Notre générique n'a pas pris une seule ride. Le temps de l'adaptation est venu. Et en même temps, nous devons poursuivre notre réduction des gaz à effet de serre. Et dorénavant, nous allons flirter en permanence avec les catastrophes. Nous entrons dans une ère chaotique, où il sera difficile de trier le vrai du faux. Juste un petit rappel. L'écologie est une science, donc une recherche de connaissance des faits. Il n'est pas d'écologie positive ou négative. Seule la manière de gérer, ce qu'on appelle la gouvernance, est positive ou négative. Ne vous laissez donc pas endormir par des beaux discours. À la veille des municipales en 2026, vos élus doivent choisir. Ils en ont la responsabilité. En attendant le tram, une petite dame me demande si c'est la fin du monde, en voyant les feux en Californie, etc. La nature fait peur et ne semble pas mieux comprise pour autant, me dis-je. Mais deux silences plus tard, elle complète. Regardez comme le soleil chauffe le béton. On a mis trop de béton. Donc, elle sait. Il est temps, comme l'a rappelé François Gémen, qui est membre du GIEC à l'occasion des ravages du cyclone Chido à Mayotte, de rendre César à César. Le réchauffement climatique ne peut pas endosser toutes les responsabilités de 30 ans d'inaction. Les politiques doivent assurer leurs devoirs. Et c'est mal parti. Dans un discours fleuve de près de 2 heures où il était difficile de ne pas s'endormir, le Premier ministre n'a accordé qu'une minute 40 à ce problème qui nous concerne tous et qui concerne aussi notre avenir. Donc, on va tenter de rester optimiste et mobilisé. Au sommaire de cette émission, retour sur Mayotte et Los Angeles, certes des éléments déchaînés, mais aussi un urbanisme en question. 2025 sera l'ère et l'année de la mer. Il faut s'y préparer. L'OFB, l'Office français de la biodiversité, a été menacé par de nombreux actes agricoles. Que faut-il en penser? Un nouveau fléau, les PFAS, c'est-à-dire les particules fines, un polluant chimique ravage nos corps et notre environnement. Il faut aussi s'y attarder. Et enfin, quelques petites infos, Montpellier-Rennes. A commencé sur un air d'apocalypse. En Californie, c'est la saison des feux. Mais pourquoi sont-ils devenus incontrôlables? De même à Mayotte, entre novembre et mars, c'est l'époque des cyclones. Mais là, ils sont plus nombreux et plus forts. Pourquoi? Bien sûr, le réchauffement a sa part. Cette année, les eaux de surface sont proches de 30 degrés dans la zone de l'océan Indien, ce qui favorise des tempêtes plus fortes. Et en Californie, la sécheresse a rendu la végétation très inflammable. sans compter l'accroissement des vents qui est dû aux constantes confrontations d'air chaud et d'air froid. Mais ces changements de température expliquent-ils tout ? Écoutons Elsa Devienne, qui est historienne environnementale des États-Unis, au micro de France Culture. Elle évoque ces incendies hors normes qui sont devenus urbains.
Ces feux se diffusent vraiment sur une végétation qui est de l'ordre de l'arbuste. Ces arbustes comme le chaparral qui sont spécifiques à la Californie du Sud et qui peuvent être extrêmement secs et peuvent s'embraser très très facilement. Et donc ce ne sont pas des grands arbres qui sont en train de brûler en fait. C'est vraiment un incendie qui est finalement assez proche du sol et qui se diffuse par le biais de ces fameux vents qui ont atteint des vitesses assez incroyables à 160 km/h. Donc on est vraiment dans des conditions presque cycloniques en fait, où donc ces incendies vont se propager par le biais de braises qui ne sont pas spécialement grandes, qui vont peut-être faire 5 cm, mais il va y en avoir qui vont être aspergés comme ça sur des kilomètres à la ronde. Et donc en fait, ça ne va pas tellement aller d'arbre en arbre comme on pourrait imaginer, mais c'est ces braises qui vont aller comme ça à 1 km à la ronde, embraser des arbustes autour des maisons qui vont ensuite donc prendre feu. Clairement, il y a des régulations qu'il faudrait mettre en place qui n'ont pas été suivies. Par exemple, on parle beaucoup de cette idée que dans ces zones à l'interface entre donc des collines assez sauvages et des espaces suburbains, on devrait laisser entre les maisons et la végétation, on va dire au moins 1 à 3 mètres, on va dire, où il n'y a rien du tout. Or, bon, les gens aiment la végétation, ça permet d'avoir une certaine... on n'a pas les regards indiscrets des gens, c'est joli, ça fait eco-friendly, mais en réalité, il faudrait qu'il y ait un travail vraiment de l'ordre, qu'il y ait des équipes qui vérifient que les gens coupent bien leur végétation, que les gens régulièrement arrosent leur végétation d'eau, notamment pendant ces périodes où on sait que les vents vont venir. Il faudrait organiser ces fameux feux de prévention qui sont qui coûtent très cher, qui créent de la pollution de l'air. Donc les gens n'aiment pas beaucoup ça. Donc il faudrait vraiment, une attitude, traiter ça comme une urgence.
Ces feux n'ont donc rien à voir seulement avec le problème des incendies traditionnels. Nous avons affaire là à un incendie urbain. Et à Mayotte, qu'en est-il ?
C'est en 2011 que Mayotte est devenu le 101e département français et le 5e département d'outre-mer. Cet archipel de 375 km² situé dans l'océan Indien comptait 321 000 habitants au 1er janvier 2024. Mais la population pourrait en réalité être sous-estimée selon un rapport de la Chambre régionale des comptes de 2022. Alors Mayotte fait face à de nombreuses difficultés, on va revenir dessus juste après, mais avant ça, quel est le bilan après le passage du cyclone Chido ? Ce samedi, le cyclone Chido a donc frappé Mayotte avec des vents allant à plus de 220 km/h. Selon la préfecture, il s'agit du cyclone le plus violent et destructeur observé sur place depuis 1934. Sa puissance a été intensifiée par des eaux chaudes de l'océan Indien, un phénomène qui est directement lié au réchauffement climatique. L'alerte rouge a été levée ce dimanche après-midi. Pour le moment, le bilan humain fait état de 20 morts selon un document gouvernemental publié ce lundi à 8h30 du matin et 250 blessés. Mais je le disais, les autorités craignent plusieurs centaines, voire milliers de victimes. Selon le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau, qui est arrivé sur place ce lundi, il faudrait des jours pour dénombrer le nombre total de décès. En fait, l'identification des victimes est compliquée, notamment car plus de 100 000 personnes vivent clandestinement sur le territoire, alors que l'île compte environ 320 000 habitants, selon le ministère de l'Intérieur. Mais aussi parce que les secouristes ont du mal à accéder aux zones touchées à cause des dégâts. D'un point de vue matériel, plus de 15 000 foyers ont été privés d'électricité, d'après la ministre de la Transition écologique démissionnaire Agnès Pannier-Runacher. Les appels téléphoniques, y compris d'urgence, ont été fortement limités, et le réseau internet est lui toujours très perturbé. Sur les 54 antennes mobiles que compte l'opérateur Orange à Mayotte, 51 étaient hors service et près de 99% des livebox étaient déconnectés ce lundi matin selon l'entreprise. Par ailleurs, de nombreuses routes sont impraticables et la tour de contrôle de l'aéroport de Mayotte a été fortement touchée. Les vols commerciaux ne devraient donc pas reprendre avant 10 jours au mieux selon une source préfectorale. Mayotte est le département le plus pauvre de France. L'archipel fait face à une pression migratoire importante et plus de la moitié des habitants n'ont pas la nationalité française selon l'INSEE. Mayotte est aussi le département département le plus jeune de France, avec la moitié de la population qui a moins de 18 ans. L'archipel rencontre aussi des difficultés économiques importantes. Pour vous donner une idée, en 2022, seulement 30% des 15-64 ans avaient un emploi selon l'INSEE, et près de 40% de la population vit avec moins de 160 euros par mois.
Il ne s'agit donc pas de comparer une des villes les plus riches du monde, Los Angeles, avec le département le plus pauvre de France, Mayotte, mais de réaliser que quels que soient les moyens à disposition, c'est-à-dire riches ou pauvres, nous restons assez démunis pour nous protéger de ces nouvelles conditions. Dans les deux cas, outre le climat, l'urbanisme est en cause. Dans les deux cas, et on commence à tout reconstruire sans prendre le temps de réfléchir à un nécessaire étalement urbain, à une nouvelle approche plus favorable à la lutte contre la nouvelle donne du réchauffement et à l'intervention des secours. À Mayotte, on a laissé se développer un habitat de banga, insalubre, ingérable. Comme à Hollywood, on a construit sur des zones habituellement vierges ou réservées à la circulation des secours. La gestion de la ville végétalisée se fait mal. Dans les deux cas, les autorités ont été incapables de gérer le risque, de revoir les échelles, de s'adapter aux nouvelles conditions climatiques. À Ella, par exemple, trop soucieux des risques qui étaient liés au risque sismique et à la faille, on s'est laissé prendre par le feu. Plus rien de ce qu'on a appris, de ce qu'ont appris les pompiers ne reste valable. Par exemple, ils avaient été formés à la pyrotechnique, au contre-feu. Ils ne peuvent plus utiliser cette technique à cause des tornades. Actuellement, il ne leur reste à peu près que ce qu'ils savent sur l'eau. Il n'y a plus que ça qui peut à peu près les servir. Or, à cause de l'accroissement de la population, l'eau n'est plus pour eux, elle est pour les habitants. À Mayotte, l'accès à l'eau était déjà problématique. Il le devient encore plus avec l'accident. La gestion de l'eau et du risque doivent donc devenir nos préoccupations principales. Sera l'année de la mer. On place la mer et l'océan au cœur de nos préoccupations écolo. On prend de bonnes résolutions. La première, c'est le plastique. On boude. La seconde, eh bien, c'est de mieux connaître ce qui vit dans la mer, parce que finalement, on ne fait pas grand-chose. Donc, on fait le pari de les connaître avant la fin de l'année. Avec 71% de la planète couverte par les océans, notre planète mer est encore trop méconnue et fragilisée. C'est pourquoi 2025 a été décrétée année de la mer. Citoyens, associations, institutions, entreprises sont invités à agir pour mieux comprendre, célébrer, protéger cet écosystème vital. Concrètement, des projets et des événements seront organisés et des œuvres vont être créées pour valoriser la mer et l'océan. Le 11 octobre 2024, l'Académie de Montpellier a financé son ambitieux projet d'Académie de la mer qui vise à développer une synergie entre les acteurs du monde maritime et les élèves. Mais on fête toujours le lancement des projets, mais on connaît rarement ce qui en découle. Si vous avez participé à un exercice de formation dans ce cadre, je serai ravie de vous recevoir à l'antenne de Radio Divergence pour que vous nous en parliez. Je sais qu'en ce mois de janvier aura lieu à Paris un séminaire en partenariat avec la Fondation de la Mer, la Marine Nationale, le Musée National de la Marine, que le 3 juin, ce sera la 28e édition du Parlement des enfants, dédiée à la protection des océans, et que, enfin, à Nice, du 4 au 20 juin, l'océan sera à l'honneur de la Conférence des Nations Unies. Des courses nautiques, des expositions merveilleuses, mais aussi une harmonisation à échelle mondiale du droit de la mer. Transport, pêche, pollution, plastique. Dans tout ce méli-mélo, eh bien, on essaiera de trouver des lignes directrices. S'intéresser à l'océan commence pour nous, Montpelliérains, par bien connaître la Méditerranée. Il va falloir venir écouter le président du Plan Bleu, Guillaume Saint-Denis, et le prospectiviste Denis Lacroix, le 18 février à 18h au Gazette Café, égrener les scénarios entre 2025 et 2050 de MED 2050. Cette initiative a été lancée en 2019 à la demande des pays riverains de la Méditerranée, qui sont membres de la Convention de Barcelone. Dans un contexte d'accélération des menaces sur la Méditerranée, on s'aperçoit que finalement ce qui nous avait été annoncé par les membres du GIEC et par le GIEC est largement dépassé et que tout va plus vite. Cet exercice de prospective sur les avenirs de la région méditerranéenne à l'horizon 2050 avait trois objectifs. Anticiper les évolutions des écosystèmes méditerranéens dans les trois prochaines décennies, identifier les risques de crise, de rupture ou les opportunités dans les domaines de l'environnement comme dans celui des activités humaines pouvant avoir un impact sur les évolutions de la région. Enfin, fournir les éclairages utiles à une transition de la région vers des formes de développement durable. Cette étude a donc élaboré six scénarios contrastés sur les futurs possibles. Il vous faut les connaître absolument. L'Office français de la biodiversité, l'un des principaux remparts contre l'effondrement du vivant, est victime d'attaques intolérables de la part des agriculteurs. L'OFB, comme on appelle l'Office français de la biodiversité, dédié à la protection et à la restauration de la biodiversité en métropole et dans les Outre-mer, est sous la tutelle des ministres chargés de l'écologie et de l'agriculture. C'est un établissement public qui a été créé seulement en 2019, donc qui est très récent. Et il a déposé une cinquantaine de plaintes au niveau national pour dégradation et menaces. Alors cela a commencé par la voiture d'un chef de service du Tarn-et-Garonne qui a été visée par un acte de sabotage. Le 26 janvier 2024, sur fond de colère agricole, des manifestants ont tenté de mettre le feu au siège de Trèbes dans l'Aude. À Guéret, les locaux de l'établissement public ont été saccagés et des documents volés. À Beauvais, un service a été muré. Plusieurs services ont reçu un mail d'insultes et de menaces. Sur Radio France, un agent témoigne. On a été lâchés par nos ministères, lâchés par le Premier ministre, avec comme conséquence des consignes qui sont redescendues à nous amener à être moins regardants, à moins sortir, ou voire même à s'occuper d'autre chose. Ce sont ce que nous demandent en ce moment. Et là, on s'est senti un petit peu trahis par ce monde agricole où effectivement on réalise par moments des constatations d'infractions, souvent sous signalement. Que ce soit des signalements de communes, de maires, d'agriculteurs, les agriculteurs entre eux qui souvent ont tendance à dénoncer leurs voisins. On est forcément obligé de se déplacer sur le terrain, d'aller constater si nécessaire l'infraction. Derrière ça, on ne peut pas repartir en fermant les yeux et dire on n'a rien vu. Dans un discours de politique générale, François Bayrou a de nouveau soutenu les agriculteurs au détriment de l'OFB. Concrètement, le Sénat propose plusieurs mesures pour renforcer ce rôle de prévention de l'agence, qui est, comme on l'a dit, récente. Plusieurs ministres de la transition écologique, le Premier ministre Gabriel Attal, etc., en pleine mobilisation des agriculteurs partout en France, demandent l'instauration de contrôles pédagogiques sans verbalisation. En fait, les agents de l'OFB sont des gendarmes. Ce sont les gendarmes de l'environnement. Ils sont donc habillés un peu comme les gendarmes. Et bien sûr, ils sont armés. Et quand ils arrivent dans une ferme, les agriculteurs prennent très mal leur arrivée. Alors, le rapporteur demande l'instauration de contrôles pédagogiques sans verbalisation dans les fermes, en partenariat avec les chambres d'agriculture, pour renforcer des échanges avec les agriculteurs. Le rapport propose également de dépénaliser certaines infractions environnementales, estimant que l'intervention de la police de l'environnement doit être moins inquisitoriale et moins traumatisante. Mais en fait, c'est aller contre les règles qui ont été imposées au niveau de l'Union européenne, puisque l'Union européenne, qui donne de l'argent, demande à ce que les agents de l'OFB vérifient qu'en échange de cet argent, les agriculteurs mettent par exemple leurs champs en jachère ou installent des haies. Donc que faudrait-il faire? Il faudrait ne plus sanctionner, voire exonérer certains exploitants. L'UFB, qui rassemble ses 3000 agents répartis à travers la France métropolitaine et dans les Outre-mer, est constitué à la fois d'inspecteurs de l'environnement, d'ingénieurs, d'experts thématiques, de vétérinaires, de techniciens, de personnel administratif, et tout ce monde œuvre pour accompagner les collectivités et les acteurs économiques, dont bien sûr les agriculteurs, vers des pratiques qui soient beaucoup plus respectueuses de la nature. Et si on affaiblit l'OFB, ou affaiblir l'OFB, eh bien c'est saper les fondations même de notre connaissance et de nos capacités d'action en ce qui concerne la biodiversité. Finalement, un domaine où tout est encore à découvrir. Que savons-nous de la fragilité des espèces, des écosystèmes déjà affectés? Quel est l'état de santé des zones humides, des milieux forestiers et marins? On a beaucoup de choses à savoir qui sont en train de disparaître et que l'OFB est là pour défendre. Les PFAS sont un nouveau fléau environnemental. Les PFAS, les particules fines, alors il y en a de plusieurs genres. Il y en a qui font 20 mm, il y en a qui font 50 mm, sur lesquels on a déjà travaillé. Puis aujourd'hui, il y a des particules extrêmement fines qui passent finalement à travers nos poumons, qui vont dans le sang et qui irriguent la totalité de notre corps. En tout cas, les PFAS, c'est une famille de 10 000 polluants éternels qui contaminent toute l'humanité. Ils étaient encore inconnus du grand public il y a quelques années. Et les PFAS sont désormais considérés comme à l'origine de la plus grave crise de pollution jamais connue. Donc on a beaucoup parlé de la pollution de l'eau, de la pollution de l'air. Voilà une nouvelle pollution, celle des particules fines. Ces polluants éternels contaminent non seulement la planète entière, mais aussi le sang de tous les êtres humains.
Contrairement à nous, ils sont éternels. Mais ils sont aussi très polluants. Les PFAS ont envahi notre vie. Mais savez-vous qui ils sont? On les appelle les polluants éternels. Il s'agit des perfluoroalkylés et des polyfluoroalkylés, anciennement perfluorés et polyfluorés, des milliers de substances chimiques actives que l'on retrouve absolument partout. Parce que ces PFAS, ils sont assez utiles. Ils rendent vos casseroles et poêles anti-adhésives et vos vestes imperméables et déperlantes, par exemple. Ils sont aussi dans la plupart des cosmétiques que vous utilisez, dans la peinture, dans les emballages de vos aliments, dans les produits détergents et même dans les cordes de votre guitare. Comme ça, on a plutôt l'impression qu'ils nous rendent service. Sauf que voilà, les PFAS ne sont vraiment pas bons pour notre santé. Et le problème, c'est qu'une fois transformés en déchets, ils se diffusent dans l'eau que nous buvons, les sols, l'air, les océans, et forcément aussi dans notre corps. Pire encore, leur composition faite d'atomes de carbone et de fluor les rend très très résistants. Ils se dégradent donc très 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 lentement. Il faut compter plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Ils font ainsi partie de la grande famille des polluants organiques persistants. Toxiques, ces polluants éternels le sont pour notre foie et nos reins. Ils sont aussi soupçonnés d'être cancérogènes, neurotoxiques et aussi d'être des perturbateurs endocriniens. Ils pourraient aussi favoriser l'obésité et le diabète de type 2. Il existe aujourd'hui très peu d'informations officielles concernant les taux de contamination des terres en France et ailleurs. En 2023, l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable, l'IGED, a quand même publié un rapport dans lequel elle fait le constat d'une contamination générale modérée des eaux souterraines françaises. Des réglementations pour limiter leur utilisation existent aussi déjà, mais ne concernent que certains types de polluants. Et seuls des teneurs maximum de pollution dans l'eau ont été fixés. Des contrôles de l'eau potable sont également prévus mais ne seront systématiques qu'à partir de 2026 et ne concerneront qu'une vingtaine de PFAS seulement. Et concernant les rejets des sites industriels, ils ne sont inspectés que depuis 2024. Alors comment peut-on s'en débarrasser? Eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne peut pas. Il est néanmoins possible d'adopter certains gestes pour les limiter un tout petit peu. Comme choisir des ustensiles de cuisine en céramique, en aluminium, en fonte, en cuivre, en fer ou en acier. Manger moins de poissons, de fruits de mer, de viande, de produits laitiers et d'œufs. Éviter les sprays imperméabilisants ou encore choisir des cosmétiques bio labellisés Cosmé Bio dans lesquels les polluants éternels sont interdits.
Une grande campagne a été lancée par le journal Le Monde et 29 autres partenaires contre les PFAS, mais les industriels réagissent avec une très intense campagne de lobbying pour éviter leur interdiction. Une fois émis, ils sont là pour des centaines, on l'a vu, et des, sans doute des milliers d'années. À cela s'ajoute que les PFAS ont aussi la caractéristique d'être mobiles. On les détecte jusque dans les pluies au Tibet. Du concombre à la loutre, on les mesure dans la quasi-totalité des organismes humains en particulier. Notre composition sanguine à tous comporte désormais des PFAS et nos enfants naissent pré-pollués par ces composés ultra-toxiques. 20 usines de fabrication de PFAS, dont 16 sont toujours actives, ont été localisées en Europe pour la première fois en 2023. La France en compte 5 à elle seule, 2 à Pierre-Bénite dans le Rhône, 1 à Villiers-Saint-Paul dans l'Oise, 1 à Tavaux dans le Jura et 1 autre à Salindres dans le Gard, dont la fermeture a été annoncée en octobre 2024 par Solvay et dont on attend aujourd'hui la fermeture. 4 États membres de l'Union européenne, l'Allemagne, le Danemark, le Pays-Bas, la Suède ainsi que la Norvège, ont développé un projet d'interdiction de toute la famille des PFAS. Élaborée dans le cadre du règlement européen REACH, cette restriction prend appui sur le caractère hautement persistant de ces composés et vise à en interdire la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation au sein de l'Union européenne. Si elle aboutissait, elle n'entrerait pas en vigueur avant 2026. Mais il faut souvent une décennie entière pour bannir un seul produit chimique. Et on l'avait vécu avec les premiers organismes persistants, ce qu'on appelait les POP, et qui avaient fait l'objet du célèbre ouvrage sur le printemps silencieux, et qui a été l'origine, en fait, de la prise de conscience du mouvement écologiste. Enfin, avant de nous quitter, retour au front montpelliérain. Alors, je vais vous parler de la végétalisation, de l'accueil de la faune que vous pouvez aujourd'hui, enfin qui vous sont aujourd'hui proposés par la ville de Montpellier. On a évoqué tout à l'heure Los Angeles sa végétalisation. Aujourd'hui, toutes les villes, pour lutter contre les plus 4 degrés annoncés, vont se végétaliser. Mais attention encore. En tout cas, bref, il existe 3 types de bons de végétalisation. Soit le micro-fleurissement, soit le fleurissement au pied d'un arbre. Alors le micro-fleurissement, ben, vous voyez, c'est quand vous enlevez une tuile et puis devant votre maison, vous faites pousser un petit arbuste. Le fleurissement au pied de l'arbre, l'arbre lui-même. Et puis, il y a 2 types de dispositifs d'accueil pour la faune, un cube à pollinisateur et un gîte pour les chauves-souris. Enfin, toutes ces infos pour mettre les choses en place sont sur le site Bon de végétalisation Montpellier. Vous verrez comment on peut transformer sa rue, embellir son quartier, rencontrer des mains vertes et participer à la cause universelle de la purification de l'air et de la multiplication de la biodiversité. C'est un petit geste, mais soigner un végétal ou un animal, ça peut changer la vie quand on est urbain. Et n'oubliez pas, le sapin de Noël, il doit finir ses jours dans le parc à sapins. La semaine prochaine, je reçois Stéphane Herbe, qui est responsable de l'association Latagora. Il viendra évoquer à notre micro ce qu'est pour lui la démocratie participative et l'action de son association à Latte, cette ville qui fut construite en pleine zone inondable. Bon week-end à tous et à bientôt.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.